bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un petit ouvrage intitulé « L'héritage nu ». Il s'agit de trois conférences qu'Aaron Appelfeld a prononcées aux États-Unis dans les années 80, lorsqu'il était invité dans une des universités américaines. Ce livre a paru une première fois dans une traduction de l'anglais. Et puis, cette année, les éditions de l'Olivier ont décidé de le republier avec l'œil attentif de Valérie Zenati, la traductrice de l'hébreu d'Aaron Appelfeld, car ont été retrouvés dans les archives de l'écrivain disparu en janvier 2018, ont été retrouvés des extraits de ses textes en hébreu. Donc Valérie Zenati s'est bien sûr rapprochée de l'hébreu et le texte a été sensiblement retouché. Et a donc paru dans le courant de cette année, cet automne, à dire, pour tout vous dire. La postface est de Frédéric Worms, professeur de philosophie et directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Aaron Appelfeld, est-il besoin encore de le présenter? Je rappelle son parcours. Né en 1932 à Tchernowitz, qui était alors en Roumanie, et donc ne s'appelait pas Tchernowitz, c'était Tchernauti. Il n'empêche que Tchernowitz, capitale de cette province qui est la Bucovine, province qui entre 1775 et 1919 avait été austro-hongroise, et donc on peut imaginer combien était présente la culture allemande, et la culture viennoise, puisque Tchernowitz se considérait, en tout cas avait adopté le surnom de la petite Vienne. Aaron Appelfeld grandit donc dans cette Tchernowitz, encore considérablement germanophone, puisque dans sa famille, ses parents l'ont élevé en allemand. Il grandit en petit garçon, choyé, fils unique. L'été, il passe des vacances merveilleuses dans les Carpates, dans la petite maisonnette de ses grands-parents maternels, qui eux parlent le yiddish, une langue qu'il entend, qu'il ne parle pas. Il accompagne son grand-père dans la petite synagogue, je dirais même, comme on dit en yiddish, le shtibl, c'est-à-dire la petite pièce qui s'est construite pour faire les prières, pour faire ses offices, auxquels d'ailleurs il convie les paysans du coin, et quand je dis les paysans du coin, c'est-à-dire des paysans ukrainiens. Donc Appelfeld grandit dans cette ambiance chaleureuse, très très entourée, très choyée, et puis éclate la guerre. Alors pour cette partie, pour cette province qui est la Bucovine, donc qui était aux confins de l'Ukraine actuelle, toute proche de la Moldavie. La guerre va débuter le 22 juin 1941, puisque cette province faisait partie de l'Union soviétique en vertu du pacte signé en août 1939 entre Ribbentrop et Molotov, respectivement ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne nazie et de l'URSS. Et donc, la guerre frappe l'enfant de plein fouet lorsque les Allemands envahissent la partie soviétique et il entend le claquement de la balle qui tue sa mère. Il va être confiné, enfermé dans un ghetto avec son père, puis déporté dans un camp de concentration en Transnistrie, au-delà du fleuve Dniester, camp duquel l'enfant va s'échapper. Comment Appelfeld ne l'a pas raconté, en tout cas pas dans ses livres. Il reste donc petit garçon de 9 ans, seul, dans les forêts. C'est l'été, il trouve de la nourriture, bien sûr, des fruits, ce qui pousse sur le sol. Et puis l'hiver arrive, l'hiver extrêmement rigoureux, bien sûr, d'Europe de l'Est. Et là, il va trouver un abri chez une population pourrait qualifier d'interlope, hein, ou de pègre, comme il le disait lui-même, puisqu'il sera abrité par des prostituées, par des bandits de grand chemin, par des voleurs de chevaux. C'est là, dit Appelfeld, c'est là que j'ai trouvé mon école primaire. Il avait été à peine pendant une année au cours préparatoire, juste le temps d'apprendre à lire et à écrire. Le roumain, bien sûr. Et donc il va comme ça errer au gré de l'hospitalité des uns et des autres jusqu'à la libération par l'armée soviétique en 1944. Armée soviétique à laquelle il se joindra, il sera un tout jeune adolescent de à peine 16 ans. Et il le rejoindra en tant qu'aide-cuisinier, aide-cuistot. Et puis la guerre se termine et il va rejoindre les innombrables cohortes de juifs rescapés, errants dans toute l'Europe, vers le sud, direction l'Italie et l'Italie du Sud. Là où d'hypothétiques bateaux peuvent emmener ces juifs en errance aux quatre coins du monde. Et pour ceux qui n'ont ni famille, ni amis aux États-Unis, en Australie, eh bien, c'est la direction la Palestine mandataire. Évidemment, une immigration tout à fait clandestine, la fameuse Aliyah Bet, qui est prise en main par le mouvement qu'on a appelé la Aliyah des jeunes, Aliyah Tanoar, de jeunes juifs palestiniens, comme on disait à l'époque, ont débarqué sur le sol européen, justement pour rassembler ces enfants, jeunes enfants, enfants, préadolescents, adolescents, jeunes gens, en errance, orphelins, ou en tout cas se croyant souvent orphelins. Certains d'entre eux ont pu retrouver une partie de leur famille. Appelfeld lui-même retrouvera miraculeusement son père bien des années plus tard en Israël. Et c'est ainsi que Appelfeld va, qui est à l'époque Erwin, n'est pas encore Aaron, va monter sur un de ses bateaux. Auparavant, il aura été donc pris en charge par ces jeunes gens de la Aliyah Tanoar, comme je l'ai dit. Parmi ceux-ci, alors il ne fait pas partie de ceux qu'Appelfeld a connus tout de suite, mais ils se sont connus plus tard. Parmi ceux-ci était le grand poète israélien né à Tel Aviv en 1923, Chaim Guri. Chaim Guri, le poète qui sera quelque temps plus tard, entre autres, le poète du Palmach, celui qui chante l'amitié indéfectible entre les amis qui partent ensemble au combat, mais qui pour l'heure va découvrir justement ses frères juifs, comme il l'a dit, de la diaspora d'Europe, et dont il va aussi s'occuper. Mais revenons à Appelfeld, qui débarque donc dans cette Palestine, où il va d'abord passer quelque temps dans le célèbre camp de Atlit, qui se situe à quelques encablures de Haïfa, au sud. Et puis, cela va être l'affectation dans une ferme-école, non loin de Jérusalem, où il va faire son apprentissage de la langue, de l'agriculture. Lui qui a passé quelques années en contact très étroit avec la nature et les animaux, il est très très lié, très très attaché justement à cette nature, aux arbres, aux animaux aussi, qui l'ont sauvé du mutisme, de l'aphasie complète, puisqu'il se gardait bien pendant cette errance dans les forêts de trop parler. Quelques mots qu'il prononçait, c'était dans ce dialecte ukrainien qu'est le ruten, qu'il avait appris fort heureusement auprès des domestiques de la maison. Et donc la seule conversation, entre guillemets, qu'il ait eue, c'était avec des chiens qui l'accompagnaient lorsqu'il allait garder un troupeau de vaches, ou même une seule vache d'ailleurs. Et donc il va refaire connaissance avec le langage par le biais de l'hébreu. On imagine que ce ne sera pas chose facile, loin de là. L'hébreu, il le sent dans sa bouche comme du gravier, écrit-il dans Histoire d'une vie. Il écrit également que l'hébreu est pour lui comme une langue de soldat qui ne fait que donner des ordres. Travaille, mange, boit, étudie, etc. Et puis il va surtout s'employer, et ça nous allons le voir évidemment sous sa plume, dans cet ouvrage dont que je présente aujourd'hui, intitulé « L'héritage nu » aux éditions de l'Olivier, dans une traduction conjointe de Michel Grybinski et de Valérie Zenati pour les passages en hébreu. Et donc Appelfeld va peu à peu, on peut dire, apprivoiser l'hébreu, et l'hébreu va l'apprivoiser lui aussi. La langue féminin en hébreu, ivrit, va devenir sa seconde langue maternelle. C'est la langue dans laquelle il va recommencer à s'exprimer. C'est la langue dont il va étudier la littérature à l'université, conjointement avec l'étude de la langue yiddish, qu'il ne connaissait pas, qu'il avait simplement entendue. Étude de la langue yiddish, étude de la littérature yiddish. Et tout ceci se passe alors que tout son passé de petit garçon juif de Mittel-Europa est consciencieusement enfoui, enterré, caché, tout au fond de lui-même, hein, sous cette crypte, cette chape de silence qu'il a soigneusement verrouillée. Jusqu'au jour où, enfin, je pense que ça ne s'est pas fait en une journée, sous l'impulsion de plusieurs de ses professeurs d'université, et non des moindres, des gens comme Martin Buber, Dov Sadan, qui fut une immense figure littéraire, littérature yiddish, littérature hébraïque, lui font prendre conscience que ici, donc Israël, et là-bas, donc cette Europe dévastée de ces juifs, peuvent être reliés par une passerelle, celle de la culture, celle des langues et de leur littérature. Et que les grands écrivains fondateurs des littératures yiddish et hébraïques, Mendel et Mocher Sfarim, donc Yaakov Abramovitch de son nom de naissance, Mendel et Mocher Sfarim, Agnon, qu'il va assidûment fréquenter, qui va devenir un intime de la famille, tous ces auteurs, Bialik, le poète, le premier poète hébreu moderne, eh bien tous ces auteurs s'expriment, se sont exprimés, sont reliés aux deux langues, à la langue yiddish, tellement honnie, tellement vilipendée, tellement stigmatisée par, je dirais, le sionisme idéologique, où l'hébreu est mis au premier plan, pas au premier plan, mais au seul et unique plan. Hein, on ne doit parler que l'hébreu, tout le reste est à évacuer. Appelfeld va peu à peu donc prendre conscience qu'il peut dresser des passerelles, qu'il peut établir des ponts entre Israël, entre cette nouvelle ancienne, pour reprendre Herzl, cette nouvelle ancienne terre, hein, pour Appelfeld à la fois nouvelle d'abord et ancienne ensuite, le Alt-Neuland de Herzl, et bien sûr cette vieille Europe juive de laquelle il est issu et dont il va tout apprendre, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait 8 ans lorsque s'est arrêtée son éducation formelle, et tout ce qu'il a conservé sont des souvenirs physiques, cette mémoire du corps dont il va énormément parler dans tous ses romans, dans toutes ses œuvres, à commencer par ses nouvelles. Je terminerai, avant de vous livrer lecture de quelques passages de cet héritage nu, qui est donc un essai, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de la forme romanesque à laquelle vous pouvez peut-être être habitué en lisant Appelfeld. Il va donc commencer à s'exprimer en yiddish, à partir du moment où il maîtrisera la langue, et en écrivant de la poésie. Et puis cette poésie ne va pas le satisfaire. Il dira plus tard que cette poésie ressemblait au cri d'un animal blessé, et lui veut s'exprimer par le biais de l'art, il veut faire parole artistique et non pas parole de chroniqueur, parole d'historien. Dans ce sens qu'il refuse d'être étiqueté écrivain de la Shoah. Donc il va passer à l'hébreu, où il s'essaiera aussi à la poésie, et puis très vite il va passer à la forme nouvelle. Alors cela pourrait en étonner plus d'un d'entre vous, parce qu'en français il n'existe pas de recueil de nouvelles d'Aaron Appelfeld. Si on fait une recherche approfondie, on trouvera ça et là dans diverses revues, ainsi dans la revue de Safon, la revue des études juives de l'université de Lille, on trouvera deux nouvelles qui ont été traduites dans les années 90, ainsi dans la revue de la communauté parisienne Adat Shalom, une revue intitulée Mirtav Hadash, on trouvera une nouvelle publiée justement dans les années 2015-2016. On trouvera dans les deux anthologies de nouvelles israéliennes contemporaines, celle publiée en 1980 chez Albin Michel et celle publiée en 1998 chez Gallimard, on trouvera à nouveau deux nouvelles d'Appelfeld, une dans chaque anthologie. Donc c'est vraiment du compte-gouttes, sachant que Appelfeld a écrit plus de 150 nouvelles, dont la plupart ont été éditées sous forme de 5 recueils de nouvelles qui ont commencé à paraître en 1962 jusqu'en 1971, année à laquelle Appelfeld va passer à la forme novella, comme on dit, c'est-à-dire longues nouvelles qui vont devenir des romans, jamais très, très épais, en tout cas en hébreu, hein, ce sont plutôt des courts romans. Et il ne cessera d'écrire jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle. Vous aurez peut-être lu le dernier livre paru en hébreu et traduit par Valérie Zenati cette année, Abîme. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour Valérie Zenati, car Aaron Appelfeld a écrit plus de 40 romans, et pour l'heure en français, on en a déjà un nombre assez conséquent, mais ça n'atteint pas encore, Valérie Zenati n'a pas encore tout à fait terminé son œuvre de traductrice d'Aaron Appelfeld, donc bien sûr nous lui souhaitons bon courage, et je vais à présent vous donner quelques extraits de cet héritage nu, non sans ouvrir cette lecture par une plage musicale, un morceau interprété par Sonia Vidar-Atherton au violoncelle, un nigoun. Thank you. Les trois conférences rassemblées ici ont pris forme en moi au cours des dernières années, écrit Aaron Appelfeld dans L'héritage nu, publié aux éditions de l'Olivier, republié cette année. Ces trois conférences ne sont pas construites comme un corpus de pensées. Ce sont plutôt des réflexions et des impressions ancrées dans la tourmente d'une enfance prise dans la Shoah, puis dans l'errance, le déplacement, à travers les ruines de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale et dans une enfance tardive en Israël. J'ai essayé d'éviter les abstractions et de rapporter mes réflexions à des choses vues. L'image, c'est-à-dire aussi les couleurs, les parfums, les bruits, est l'émissaire le plus fidèle du souvenir. Je dis souvenir, et aussitôt je retire le mot. Quiconque est passé par la Shoah se méfiera du souvenir comme du feu. Pendant de nombreuses années, les gens de ma génération eurent la préoccupation de dissimuler leurs souvenirs, de les réprimer, ou, pour employer un mot plus dur, de les supprimer. Il fut impossible de vivre après la Shoah autrement qu'en réduisant la mémoire au silence. La mémoire devint l'ennemi. C'est à chaque instant qu'on travailla à l'émousser, à la détourner, à l'engourdir, comme on le fait avec la douleur. Le combat dura des années. Les gens apprirent à vivre sans souvenir, à la façon dont on apprend à vivre lorsqu'on est amputé. Le passage des souvenirs étouffés aux mots éveille un soupçon, et l'on hésite. Les images étaient atroces, immenses, et les mots sont fragiles et impuissants. La vie après la Shoah semblait une résurrection, avant l'heure, un nouveau cauchemar. Comment vivre désormais? Comme la mémoire, ces questions devinrent des ennemis. Les choses vous rendaient fous à force d'être déroutantes. Il n'y avait pas de place dans les camps pour l'individu, pour sa douleur et son désespoir. Personne ne disait « j'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents, je suis de mauvaise humeur ». Je me languis de chez moi. Dans les camps, il n'y avait pas de place pour un lexique aux accents domestiques. L'individu, ou ce qu'il en restait, était annulé et seul demeurait la fixité d'un regard nu, ou plutôt l'apathie. Après la Shoah, il y avait aussi de la honte à parler de soi. La croyance juive que le monde repose sur l'individu échoua devant l'épreuve. Je me souviens d'avoir entendu un survivant, un juif religieux, qui au milieu du camp libéré vociférait « mort à la mort ». Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, il me semble qu'il faisait allusion à l'indifférence qui entourait les survivants et menaçait de les plonger dans une autre mort, un silence sourd. Je cherchais une issue, des années durant, un point de vue, d'où je pourrais commencer à converser avec moi-même. Le besoin d'habiller la mémoire de mots devint plus fort avec le temps. Mes premières tentatives d'écriture furent des poèmes et une chronique. Les premiers poèmes n'étaient rien de plus que des hurlements étouffés, des appels au secours, des cris adressés à Dieu. Dans leur désolation, ces poèmes étaient le gémissement d'un animal égaré. Mais au-delà de ça, il n'y avait rien. Dans la chronique, j'essayais de décrire ce qui m'était arrivé après que j'avais été séparée de mes parents. Je m'efforçais d'être fidèle à mes souvenirs. La mémoire semblait contenir le plus nécessaire de ce que j'avais connu. Être fidèle à ce qui avait eu lieu était un impératif dont il n'était pas question de s'écarter. Mais comment s'y prendre? Car la mémoire elle-même se révéla l'ennemi de mes écrits. Lorsque je l'eus transcrite, mon expérience d'enfant dans la Shoah, gravée dans chacune de mes fibres, et qui même après toutes ces années reste précise et claire, apparut peu fiable à mes yeux. On aurait dit la matière d'une fiction. La mémoire en qui j'avais cru si fort m'avait trompée. Je refusais de m'y résoudre, et fidèle à mes souvenirs, je continuais d'écrire. Le résultat fut, entre autres choses, l'histoire sentimentale sans relief d'un enfant juif errant dans les bois, nourri de plantes, et qui, aux saisons froides, trouva refuge auprès de marginaux. C'était l'histoire vraie de mon enfance, mais ce qui ressortait de mes pages avait une allure bizarre, peu convaincante, et qui, pis est, inventée. La mémoire compulsive s'empara de mes écrits, m'interdit l'accès à tout autre élément créatif. Tandis que les survivants étaient opprimés par la mémoire, d'autres auteurs, surtout ceux qui n'avaient pas connu la terreur, s'essayaient à rendre la Shoah en l'imaginant. Le résultat était bien pire. La facilité avec laquelle les mots deviennent des faussaires pour habiller la vraie vie est stupéfiante. Sans la mémoire, pas de littérature. La mémoire, ce n'est pas seulement les faits. Les choses vues, le relevé de leur emboîtement, c'est aussi la chaleur d'une émotion. La mémoire est sans aucun doute l'essence de la création. Mais de temps en temps, la mémoire est une masse, si l'on peut dire, ou ce qui est important, ce qui ne l'est pas, se confondent. Elle exige un élément dynamique qui la fasse bouger, lui donne des ailes. Et c'est généralement ce que fait l'imagination. Le pouvoir de l'imagination créatrice ne réside pas dans l'intensité ni l'exagération, mais dans un nouvel agencement des faits. Il ne s'agit pas d'inventer des faits nouveaux, mais de les distribuer correctement. Leur ordre rend visible l'idée de l'auteur. La vie dans la Shoah ne réclame pas d'images ni de faits nouveaux et inventés. Cette vie était si riche qu'on en était saturé. La difficulté littéraire n'est pas d'empiler les faits, mais de retenir les plus nécessaires, ceux qui abordent le cœur de l'expérience, et non ses marges. Voilà quelques extraits donc de cet essai, L'héritage nu, d'Aaron Appelfeld, qui évidemment évoque la mémoire et ce qu'il en a fait, sa volonté de faire de l'art et non pas de l'histoire ou de la chronique ou un simple souvenir. L'héritage nu a été traduit tout d'abord de l'anglais par Michel Grybinski, puis les passages retrouvés en hébreu ont été retraduits par Valérie Zenati. Le tout est publié aux éditions de l'Olivier. À la semaine prochaine.